Salut, vous êtes à l'émission Pirate et Libre. Je suis Ramon Vitesse. Ben là, on va entendre Philémon Simon. Yeah, ouais. Hey, bonsoir. En toute anarchie.
c'est pour les nerfs. L'astérite c'est pour les nerfs. L'astérite c'est pour les nerfs.
L'astérite c'est pour les nerfs. L'astérite c'est pour les nerfs. L'astérite c'est pour les nerfs. L'astérite c'est pour les nerfs.
Octoplot sur CKUT 90.3 FM. Octoplot, un groupe sur étiquette Slam Disc, c'est un duo batterie-guitare électrique. C'est leur deuxième album, Le Démon Normal. Oui, il nous habite, on l'habite, c'est nous qui le produisons. Le démon, c'est rien d'autre que ça. C'est un peu comme l'histoire du destin ne serait qu'un foutoir, ne serait qu'une supercherie, selon un certain Zéphyr. Alors, la pièce s'intitule « Regardez-la ». Pourquoi « Regardez-la » plutôt qu'ailleurs? On tente donc de mener nos regards à une zone ténue, à une plus petite zone, alors que pour avoir une certaine cohérence, il importe d'englober, de mettre en perspective. C'est fort important pour notre liberté. On a fait jouer aussi pour vous Fortune Cookie Club. C'est un groupe de Noé Talbot, un autre de ses groupes. L'album s'intitule L'autre et c'était la pièce L'austérité pour les nuls. Et pour cette pièce, il a convoqué Guité. Guité, qui était dans le groupe MAP, qui était dans, je pense aussi, Charlie Foxtrot. Une très belle pièce, donc, pour déconstruire le mythe de l'austérité, un mythe politique qui nous ferait avaler des couleuvres. On a commencé cette émission de Pirates et Libres avec Philémon Simon, avec un C pour Simon. C'est un album intitulé « Pays ». C'est sur étiquette. Je pense que c'est Coyote Record. Je ne suis pas certain. Je ne veux pas dire d'ânerie. En tout cas, tiens, la pièce qu'on a entendue m'amuse profondément. Elle s'intitule « Jésus rouge, Jésus noir ». Ah ben ça alors! Qu'est-ce que sont que ces couleurs? Qu'est-ce que c'est que ce métissage? Et surtout que ce sont les couleurs de l'anarchie qu'on fait adopter à ce bon vieux Dieu. Sacré Jésus, comme dirait Tronchet dans une bande dessinée où il faisait promener Jésus flambant nu. Alors oui, bon, on s'amuse comme des petits fous. On va aller voir du côté de la bande dessinée pour parler de mémoire, d'histoire et également de disparition. Ah ah! Allons voir, allons voir. La première bande dessinée que je vous propose s'intitule « L'homme de la situation ». C'est publié chez l'éditeur Dupuis par une autrice nommée Lou Lubie, L-U-B-I-E. C'est assez intéressant comme livre, assez surprenant. C'est un livre, donc, sur l'homme. L'homme qui a toujours à assumer un rôle d'homme fort et protecteur, qui voit soudainement son monde bouleversé quand, coup sur coup, sa compagne le quitte et qui se voit refuser un poste au nom de la parité homme-femme. Il s'agit de Manu, qui est un enseignant depuis plus d'une dizaine d'années dans une école dans laquelle il est investi mur à mur. Alors, en perte de repère, il va s'accrocher à une fillette avec ses deux frères et son frère handicapé qu'il rencontre dans ses pérégrinations. Il va s'attacher à prendre un congé parce qu'il s'est fâché avec le directeur par rapport à cette nomination qui l'a éjecté finalement de ses rêves les plus fous. Et il va s'investir donc avec cette fratrie, je pense qu'ils sont sept frères et sœurs, avec une dame qui est leur mère, qui tient une espèce d'hôtel un peu improbable. Un hôtel qui semble complètement hors du temps. À ce point que, alors qu'il va tenter de parler de cet hôtel à son ex, il va s'apercevoir qu'en allant sur Google ou un truc de localisation du genre, il n'y a absolument rien à cet endroit-là. Cet endroit-là est vide. Sur le coup, il se dit « ben tout simplement, la photo a été prise auparavant ». Pas du tout. C'est une photo actuelle et la famille en question à qui il apprend à lire, à qui il donne un coup de main, parce qu'ils sont vraiment vachement mal pris. C'est définitivement des gens qui sont éjectés du monde normal par leur pauvreté. Sauf que tout ça n'est qu'illusion. Ce sont des fantômes, c'est un monde parallèle qui attire finalement les personnes à partir de leurs faiblesses. Un peu comme une toile d'araignée, finalement, le fait avec ses proies. Alors, le type en question, Manu, qui est éducateur, dit ceci. « Je ne suis pas quelqu'un de vulnérable. Au contraire, il voit tous les gens autour de lui comme étant vulnérables. Erreur et surtout illusion. » Alors, ce livre-là pourrait être quelque chose de nul, mais au contraire, c'est assez étonnant et c'est définitivement un thriller psychologique de haute voltige avec un piège qui se referme donc autour du lecteur, de la lectrice, qui se questionne sur le rôle qui est dévolu aux hommes dans la société. Bien sûr, c'est un rôle qui est en changement, un rôle qui est bousculé pour le meilleur et parfois pour le pire. Lou Luby, c'est intéressant qu'une femme s'y intéresse. Lou Luby, qui est originaire de l'île de la Réunion, qui est diplômée dans les game design, a gardé donc un goût pour la narration interactive, toujours tournée vers la personne qui lit. Alors, elle a formé un forum dessiné en 2008, qui est un site communautaire, donc qui permet à des dessinateurs, dessinatrices de tout niveau de créer ensemble de la BD numérique. C'est donc un espace de création atypique qu'elle a créé avec le forum dessiné. Elle a fait, elle a eu différents liens avec, en fait, plus de 2500 dessinateurs, dessinatrices francophones ont participé sur ce site. Elle a fait un livre qui s'appelle Goupil ou Face, une BD de vulgarisation scientifique sur la cyclothymie. Un trouble de l'humeur. Et en 2019, un livre que j'ai apprécié au plus haut niveau avec une collaboratrice du Forum dessiné, La fille dans l'écran. C'est une BD qu'elle a co-écrite et co-dessinée avec la Québécoise Manon Desvaux. Ça raconte une relation à distance entre deux jeunes femmes qui, de part et d'autre de l'océan, vont bouleverser leur vie et vont initier une relation d'abord d'amitié qui va évoluer vers de l'amour. Alors, fort intéressant, donc, ces deux vies qui se déroulent en parallèle. Un personnage sur une page en vis-à-vis. Ici, dans L'homme de la situation, Lou Luby y va carrément seule et elle travaille donc justement dans une société qui évolue pour devenir de plus en plus inclusive à questionner justement les rôles traditionnels au genre qui sont battus en brèche. Quelle est la nouvelle place des hommes? C'est un peu la question qu'elle pose et elle n'y répond pas frontalement. Elle nous laisse mijoter là-dessus avec différents points d'interrogation. L'homme de la situation, publié chez Dupuis par Lou, L-O-U, Luby, L-U-B-I-E, pardon. Alors, un livre qui est dessiné de façon très simple, à l'ordinateur apparemment, mais avec un scénario, avec un découpage qui est extrêmement vif. Un autre BD. Alors là, on va encore aussi dans les méandres un peu du fantastique. Il s'agit de « Un jour de pluie ». C'est publié chez l'éditeur québécois Nouvelle Adresse par Philippe Girard, un BDiste de Québec qui a déjà une belle œuvre derrière lui. On lui connaît déjà beaucoup de livres, des livres à la fois... je dirais, axée sur l'histoire à l'occasion, mais aussi pour une bonne part autobiographique. Ici, il revient sur sa grand-mère ça lui inspire le personnage d'une jeune fille, d'une nièce, qui va rencontrer sa grand-mère qui, alors qu'à l'hôpital était promise à passer l'arme à gauche, va dans un sursaut, parce qu'elle a des choses à régler avec la vie, va décider sa petite-fille, « OK, on part avec ton char, on s'en va voir une telle avec qui faut que je parle, faut que je règle des trucs, j'ai une affaire qui est pas réglée avec elle. » Et quelle affaire! Il s'agissait d'un enfant adopté. Alors voilà, enfin, c'est une substitution. L'histoire est complexe, mais le secret est gigantesque. Alors, ensemble, elles vont partir en cavale. La police va les rechercher, tout le monde va les rechercher, puisque la grand-mère était censée être déclarée morte, pour ainsi dire. Alors qu'elle prend la route, qu'elle choque littéralement sa petite-fille en lui racontant des amours incendiaires, des amours interdits. Bref, elle va déculoter cette jeunesse réputée libertaire, voire un peu perdue. Un livre assez fascinant, un livre étonnant. On voit dès la page couverture la silhouette de la grand-mère avec différents personnages de ce road movie assez étonnant. En fait, la question que pose Philippe Girard est la suivante. Et si, à l'heure de mourir, la mort nous accordait un jour de plus? Un jour, un seul, pour profiter de la vie et corriger quelques erreurs avant le grand départ. Alors, c'est un livre qui est étonnant, c'est un livre qui nous amène à réfléchir sur le sens de la vie et surtout sur l'importance à accorder à ce qu'on souhaite vraiment, au-delà de se dire « j'arrangerai ça » ou « ça va se tasser » ou « un jour les choses s'arrangeront ». C'est un livre en noir et blanc, dessiné très simplement. Étonnamment, Philippe Girard, depuis quelques livres, a changé complètement son dessin. Personnellement, au début, j'hésitais à reconnaître même son dessin, qui était à gros traits, qui semblait être fait au feutre, alors que là, on dirait qu'il y a un trait qui est légèrement plus affiné, plus alerte, peut-être aussi plus cacochime. Très beau livre que ce « Un jour de plus » publié chez le micro-éditeur Nouvelle Adresse par Philippe Girard. Un autre bouquin avant de repasser en musique, « Si je disparais ». C'est un livre publié chez Isatis, une nouveauté tirée d'une lettre que Brianna Johnny, une autochtone, une jeune autochtone qui avait, il y a quelques années, quand elle l'a écrit, je crois, 12 ou 13 ans, elle a écrit ça au chef de police de son village. Elle a envoyé ça aussi au gouvernement. Je pense que ça se passe à Winnipeg, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est ça. Alors, en fait, ce qu'elle souhaitait faire en 2016, Brianna Johnny, c'était écrire une lettre ouverte, donc l'implorant de faire mieux avec ses effectifs dans le cas de personnes autochtones disparues. Elle avait remarqué qu'une jeune personne qui lui ressemblant, qui disparaissait, le service de police mettait beaucoup plus de temps à réagir que lorsqu'il s'agissait d'un blanc, parfois même jusqu'à 16 jours. Ce livre-là, donc, reprend, c'est un artiste autochtone, Neil Shanakapo, avec Naani Shingus, qui a retravaillé, redécoupé la lettre de Brianna Johnny pour en faire un roman graphique. Donc, c'est ça. Ça nous dit ceci. Je suis une cousine. Je suis une petite fille. Je suis une fille. La fille d'une mère célibataire qui m'aime plus que tout au monde. Mon père, avec qui je n'ai aucun contact, est un toxicomane et un criminel. Je ne prends pas de drogue, je ne consomme pas d'alcool avec mes amis et je ne me prostitue pas. Je ne fais rien d'illégal, je ne suis pas une fugueuse et je ne dépends pas des services sociaux. Bref, Brianna Johnny démystifiait puisqu'on met tous les Autochtones dans le même panier. Mieux encore, elle identifie dans sa lettre qu'elle ne peut pas prendre les transports en commun sans se faire approcher ou dévisager par des hommes qu'elle ne connaît pas, même dans un quartier sécuritaire de la ville, même en plein jour. Donc, le fait d'être femme, mais aussi d'être jeune fille autochtone, encore plus, elle est déconsidérée. Elle sent ainsi que la vie d'une fille autochtone, je la cite, n'est pas importante. Et ce qu'elle lui demande, c'est d'agir parce que c'est comme ça qu'elle se sent vivre. Et elle demande au chef de police, écoutez, si jamais je disparais, je souhaite que vous publiez mon nom au plus sacrant, que vous informez mes proches en leur disant que ce n'est pas de ma faute. Voilà. Bref, qu'on cesse cette discrimination systémique. Donc, un très bon livre en noir, blanc, et rouge, un livre définitivement par des Autochtones pour le peuple québécois, fort intéressant, un livre qui donne la parole enfin à ceux qui doivent la prendre. Si je disparais, publié chez Issatis, c'est signé Brianna Johnny avec Naomi Shingus et Neil Shanakapo. Voilà. Alors, on repart. Allez, maestro, on va écouter Udon et Placard qui dit « Ma vie est une cour à scrap » sur CKUT 90.3 FM.
Attention de pas voisins. Emmène un stock sur cage de ville à village. On en veut qu'il en dégage.
Quelle pièce étonnante. Il s'agit bien sûr d'un rocker bien connu des Québécois. Il s'agit de Fred Fortin. C'est dans un projet qui date de plusieurs années qui s'appelait Gros Méné. Et le disque s'intitulait Tue ce drum Pierre Bouchard. Et c'était la pièce Punch Up, puisque j'ai l'air d'être dans un truc... dans une thématique un peu bancale, un peu pourrite, où tout va mal. D'ailleurs, la pièce précédente s'intitule « Le cri », c'est le groupe Pénélope, et le disque s'intitule « J'ai fait fuir la visite ». Rien de moins. On avait commencé le tout tel qu'annoncé avec Udon et Placard en duo, et c'était la pièce « Ma vie est une cour à scrap ». J'avoue que j'aime beaucoup ce titre, quasi surréaliste et en même temps peut-être même dans ta face, quoi. On continue donc avec nos bandes dessinées, nos livres jeunesse qui traitent de mémoire, d'histoire et de disparition. On va y aller avec un livre qui nous parle d'une disparition historique, c'est-à-dire celle du chef des Métis, Louis Riel. C'est un livre donc qui est monté à partir de photos d'archives. Louis Riel, c'est un livre intitulé ou sous-titré « Le pays improbable ». C'était donc un vœu de pays libre, un pays où les gens peuvent élire leurs propres représentants. C'était ça le souhait de Louis Riel, rien d'autre. Et c'était celui des Métis, des Indiens qui représentaient. Alors, le pays improbable, c'est signé André Leblanc, un type qui a travaillé dans l'enseignement, mais surtout qui s'intéresse aux images d'archives et avec lequel il monte des narrations graphiques. Il l'a fait récemment avec des chansons québécoises, françaises, des chansons pour enfants. C'était un livre vraiment du tonnerre. Alors ici, il est question de traités, de réserve indienne, d'alliance, du peuplement de l'Ouest et aussi des guerres amérindiennes, de l'histoire du Canada qui n'est pas toujours glorieuse. Et là, ici, on le voit, disons que mater les peuples, les anéantir au besoin au passage, pas de problème. Donc, André Leblanc, ici comme auteur, a choisi de prendre la place du conteur et de raconter de la façon la plus simple et la plus claire possible une histoire qui est définitivement tumultueuse et embirlificotée serait le moins qu'on puisse dire. Donc, ça débute dans l'Angleterre du 17e siècle et, comme dans tous les contes, il y a des grands, des petits, des forts, des faibles, des riches, des pauvres et bien sûr des gagnants et des perdants. Il y a des coups de chance, des coups de malheur. C'est une fresque historique avec des photos drôlement bien choisies. À une occasion, la photo est colorée et ça se termine sur une note terrible. Tous orphelins, trois petits points. Il y a bien sûr la fille et le fils de Louis Riel qui sont morts très jeunes, qui ont été orphelins, mais aussi nous-mêmes, ou peut-être la démocratie ou une histoire peut-être un peu plus humaine du Canada qui est orpheline. La façon dont travaille André Leblanc, c'est à la façon d'un historien, en étayant chacune des éléments qui avancent, en donnant bien sûr des références et en notant au passage d'où viennent chacune des photographies, en ajoutant aussi des notes pour qu'on comprenne bien chacun des mots, chaque définition, comme par exemple sur la guerre de 1885, ou encore qu'est-ce que la rébellion, quelle était la définition du pouvoir, quelle était la définition des rebelles eux-mêmes. La fameuse bataille de mai 1885, 4 jours de bataille, eh bien, on donne aussi des renseignements. Donc, ce livre, qui peut se lire de façon très rapide et très simpliste, peut aussi être une opportunité d'approfondir déjà dès ce livre, mais on peut aller aussi plus loin en suivant les sources d'André Leblanc. Donc, un livre intitulé « Louis Riel, le pays improbable », publié aux éditions Les 400 coups. Dès la page couverture, on a les personnes qui sont allées mesurer, les arpenteurs qui sont allés mesurer le terrain de façon à ce que la couronne en prenne possession. Donc, déjà, on voit la violence de la chose et c'est un livre, donc, fabuleux sur Louis Riel pour mieux comprendre son histoire, mieux comprendre le combat des Métis. Un autre livre, Le Labo. Le Labo. Un labo de quoi? Eh bien, il s'agit de l'histoire de la photocopieuse. Quand la photocopieuse est apparue, bien sûr, ça a eu un retentissement gigantesque, notamment pour le fanzine, pour ce qu'on pourrait appeler l'imprimerie populaire. C'est-à-dire, tout un chacun peut procéder à multiplier différents exemplaires d'un original qu'il possède ou qui fabrique encore mieux dans le fameux « do it yourself ». Le labo, on le voit dès la page couverture multicolore, quasiment gay, publié chez Dargaud par Hervé Bourris et Lucas Varella. On voit donc un type qui est inspiré par la Californie, par Silicon Valley, qui commence tout juste à émerger. Quelques hippies s'intéressent donc à l'informatique. On est loin encore des fortunes qui vont se bâtir là-dessus. L'histoire est semi-inventée et un peu basée sur l'histoire de géants de l'informatique actuelle. Ça aurait pu se passer en France. Malheureusement, des décisions politiques ont fait autrement. Ont coupé l'herbe sous le pied à des jeunes créatifs et créatives pour créer donc un réseau à partir d'ordinateurs, donc des ordinateurs qui sont intercommunicants. Alors voilà, dans des expositions, les Américains vont s'intéresser aux procédés français, vont le ramasser. Et il y a un côté féministe aussi à ce livre-là, puisque la fille, frère et sœur, tente de pouvoir donc s'impliquer dans ce laboratoire, dans ce tremplin pour dans ce tremplin technologique, en fait. Et la fille va être systématiquement éliminée, sera même pas écoutée ni par son frère, ni par son père, alors qu'elle voit, entrevoit les potentialités des jeux vidéo. À la fin de cette saga qui explose la famille, qui mène tout le monde en bourrique, voire en faillite, la jeune fille va partir pour le Japon et va enfin tracer son chemin et sera reconnue comme créatrice de jeux vidéo absolument magique. Le Labo, un livre très beau, au graphisme moderne, avec des couleurs peut-être vieillottes. On est donc dans un livre à saveur historique et on cornait Hervé Bourris pour son petit livre sur le rock, son petit livre sur la Troisième République. Il y a un côté encyclopédique. Et à la fin, on n'échappe pas à Computer 1975 avec quelques dates et quelques éléments historiques bien réels, par exemple, par rapport à l'évolution de l'informatique individuelle, l'apparition d'Internet ou encore Steve Jobs ou Steve Wozniak ou Louis Pouzin, Paul Terrel, Toru Iwatani. Donc, c'est ça, des figures emblématiques de l'informatique. Le Labo, donc, un livre potache, un livre comique, un livre tragique aussi en même temps, avec un zeste de féministe pour mieux comprendre les méandres de la création de l'informatique qui a définitivement bouleversé notre monde dans une vitesse qui est absolument époustouflante. Le Labo, publié chez Dargo, les auteurs étant Hervé Bourris et Lucas Varella. Pour s'achever, peut-être quelques mots sur un essai très bref, un essai en 52 tableaux. Ça s'appelle L'Envers, V-E-R-T. C'est un jeu de mots avec l'envers comme l'envers du décor, mais non, là, c'est une année verte. Donc, L'Envers, 52 semaines pour sauver la planète. Les textes sont de Stephen Kerckhoff, K-E-R-C-K-H-O-V-E, et les dessins sont de Red. C'est chez l'éditeur, le micro-éditeur, que dis-je, Le Passager clandestin. Tout un programme qu'un nom d'éditeur comme ça. Donc, sur différentes thématiques, climat, société, consommation, technologie, société, transport, pollution, etc., etc., 52 fiches de 2 pages. Et si on passe à travers cette année-là, eh bien, on va pouvoir définitivement, en 4 saisons, définitivement transformer sa façon d'être par rapport à la planète. Par exemple, pour l'hiver, on a dans la semaine 1, j'arrête de remettre à demain ce que j'aurais dû faire avant hier. ou encore « j'arrête d'être une victime de la mode » ou encore « j'arrête la publicité dans ma boîte aux lettres ». Donc, c'est fort varié. Hein? Pour l'été, par exemple, on a ici « j'arrête de prendre l'avion » ou encore « j'arrête les crèmes solaires toxiques ». Ou encore à l'automne, j'arrête le Black Friday, j'arrête Amazon, j'arrête les grands projets inutiles. Comme on le voit, les facettes finalement qui sont proposées sont tout azimuts, vont du tout petit geste jusqu'à des éléments de mise en cohérence finalement au-delà du bac de recyclage. On disait souvent à la blague, on n'est pas écologiste parce qu'on remplit son bac de recyclage à ras-le-bord. Non, c'est parce qu'on développe peu à peu une cohérence, une meilleure compréhension. Il faut se rappeler que, par exemple, les choses ont changé très rapidement. Le fameux recyclage des canettes, par exemple, pour les boissons gazeuses ou les boissons alcoolisées, c'est encore tout récent. Il n'y a même pas une génération, ce n'était que des bouteilles en vitre et qui étaient entièrement lavées et réutilisées. Alors voilà, la supercherie vient notamment du capitalisme et du développement qui fait dur et non du développement durable. Quoique, il y a aussi là un gimmick. Donc, un livre fort intéressant qui n'y va pas par quatre chemins, qui résume très bien comment on peut changer la donne plutôt que de se croiser les bras. L'envers, L'ANVERT, 52 semaines pour sauver la planète, publié chez l'éditeur Le Passager clandestin par Stephen Kerckhove, K-E-R-C-K-H-O-V-E, et le dessinateur Red Tourlou. 90.3 FM, CKUT.
Cette nuit sur la place de la Concorde,
chauffeur de taxi montre les dents pour se mordre.
Le bras sur la terre, je regarde les jets d'eau, y'a du soleil.
Bip bip,
oh, n'effrayez pas les petits oiseaux.
Bip bip,
j'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron.
Elle fume la cigare et a des petits yeux ronds.
Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner, y'a du soleil.
Bip bip,
oh, vraiment, je ne suis pas pressé.
Ma mère exaspérée me fait signe d'avancer.
Mais c'est déjà trop tard, on vient de passer. Elle a les yeux, mais elle est prête à me fusiller. Ça fait plus d'un quart d'heure que dans la circulation.
Je voudrais bien lui faire un peu de conversation.
Mais c'est la pluie d'orage qui vient tout arranger. Que des sons, la pluie lui tombe sur le nez. Qu'elle est belle sous la flotte.
Je vais aller l'aider à remettre sa capote.
Mais ton lance en abri, la voilà qui me sourit. Je suis trempé. J'ai l'air dans bon mon chien mouillé. Et voilà le feu vert qui vient de se rallumer.
Je passe sur la première, chacun de son côté.
Le signe de la main, au revoir et à demain. Y'a du soleil.
Thank you.
when you got no point. I believe it's dream, 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 dream on beat. Gonna kick back my conscience and sound on to sleep.
En pleine face, maintenant je suis vraiment écœuré. Mais c'est toi qui vas m'écouter. Car je vis à Montréal et non à Rivière-du-Loup. Je me suis acheté un marteau, mais il manque encore des clous. J'aime construire mon empire avec mes deux mains. Mais puisque c'est comme ça, je reviendrai demain. Toujours tard de la Bordasca, car elle danse et elle boit et elle rit et elle ment. Je suis triste car elle me croit même pas, mais comme moi elle a le TDA. Je suis sûr que tu es là, même si des fois ce n'est pas le cas. Tu disparais quand je ferme les yeux, debout tout seul c'est déjà mieux. Prends ma main et me donne un clou. Là je peux construire ma maison. Le vieux monsieur avait bien raison. Prends une balle de tutule, sinon j'en arrache. J'ai si peur des gros bus, donc je prends une marche. L'histoire n'est pas finie, mais je ne peux pas continuer. Avec cette maladie, deux minutes et je suis tanné.
CKUT is hiring a spoken word coordinator. Do you have a passion for storytelling and amplifying perspectives outside of the mainstream media landscape? Are you interested in working at a collectively run, independent community radio station? CKUT's spoken word coordinator is a full-time position starting June 1st that is responsible for the coordination of all CKUT's spoken word programming and is part of CKUT's collective management committee. The position is 35 hours a week, pays $18.36 an hour, and applications will be accepted until 9 a.m. on May 3rd, 2021. Please visit ckut.ca for more details. We're looking forward to hearing from you.
It doesn't.
How sweet.